Vous écoutez, on lit pour vous.
Préserver l'ancien marché Maisonneuve. Un texte d'Émilie Côté, paru le 16 mai 2026 dans La Presse. Situé juste à côté de son successeur, l'édifice de l'ancien marché Maisonneuve subira des travaux de réfection au cours de la prochaine année. Les travaux totalisant 6 millions de dollars concernent en grande partie la sécurité et l'accessibilité universelle de l'édifice de type Beaux-Arts. Nous refaisons l'entrée d'eau et les sorties de secours, mentionne Emmanuel Thibodeau, gestionnaire immobilier à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable des travaux. Nous ajoutons un nouvel escalier entre l'étage et le rez-de-chaussée et nous restaurons la marquise autour du bâtiment. Le CCSE Maisonneuve, un centre communautaire de loisirs, occupe l'édifice de l'ancien marché public situé au 4375 rue Ontario-Est. C'est pourquoi les travaux sont échelonnés sur plusieurs phases pour ne pas trop affecter les activités et les camps de jour au programme. Lors de notre visite, il y avait un cours de mise en forme dans la salle principale dotée d'une scène à partir de laquelle une porte permet de monter jusqu'au comble avec une vue apparemment unique sur le fleuve, malheureusement inaccessible. Il faut une formation de travail en espace clos pour y avoir accès. Les travaux sont bien moindres que ceux en cours pas très loin au stade olympique, mais ils marquent une continuité dans la volonté de préserver le patrimoine bâti des frères Marius et Oscar Dufresne qui étaient inspirés du mouvement City Beautiful et qui voulaient épater la galerie. Au cours des dernières années, la bibliothèque Maisonneuve, le chalet du parc Morgan et le bain du même nom ont eu droit à une cure de jeunesse, alors que l'ancienne caserne Les Tourneux est devenue, en 2016, le centre Nutrilait, où s'entraîne le CF Montréal. Il y a un souci de préserver le patrimoine. Ce sont des joyaux qui distinguent notre arrondissement et qui ont besoin d'amour, affirme Julie Bellemare, agente de recherche à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. En 2025, la sculpture fontaine, la fermière du marché Maisonneuve, a fait peau neuve. Le granit a été nettoyé au laser et les anciens luminaires marquants ont été reproduits à l'identique en atelier. Il y a une dizaine d'années, la toiture de l'ancien marché avait aussi été restaurée. Les œils de bœuf avec persiennes ont été recréés en cuivre. Il a fallu trouver un fabricant français de tuiles d'argile émaillée. Lors des travaux permettant au bain Morgan de retrouver son lustre d'antan en 2021, des gens ont découvert un tunnel reliant l'ancien bain public à l'édifice du premier marché Maisonneuve. Dès 1912, des journaux en faisaient mention, souligne Olivier Dufresne, directeur de l'atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. On pouvait lire sur les différentes soumissions qui ont été acceptées et on peut lire qu'il a fallu refaire une soumission pour les installations électriques car l'entrepreneur n'a pas bien compris l'idée du tunnel. Il y a réellement un tunnel de briques où passaient des conduites d'eau et qu'on utilisait pour le chauffage, ajoute Emmanuel Thibodeau. Le passage est aujourd'hui inaccessible. Mais l'une des deux portes d'entrée est visible dans la salle mécanique du bain Morgan. Un peu d'histoire. Pour l'anecdote, l'ancien marché Maisonneuve était un projet trop ambitieux et excentré pour la population de l'époque dans l'est de la ville. Les maraîchers de l'île Jésus, où se trouve aujourd'hui Laval, n'avaient pas le Pompineuf pour s'y rendre, alors que le marché Bon Secours était fort fréquenté. Dans les années 1920, des conseillers parlaient du marché Maisonneuve comme d'un éléphant blanc, raconte Olivier Dufresne. En 1962, le marché va fermer et il est même question de le démolir. Il sera plutôt occupé par des policiers du Bureau de la circulation et d'écoles de police. Puis, en 1976, l'édifice sera le quartier général de l'équipe responsable de la sécurité aux Jeux olympiques, suivant ceux de Munich, assombris par un attentat terroriste. Dans les journaux, on parle d'un mini-pentagone. Après avoir rouvert, en partie brièvement, en 1980, c'est en 1995 que le marché Maisonneuve va revivre officiellement juste à côté. Les jardins Dauphinet vont participer à sa renaissance et la fruiterie familiale y est encore. C'était préserver l'ancien marché Maisonneuve. Un texte d'Émilie Côté, paru le 16 mai 2026 dans La Presse.
Les excréments de Pitou bientôt en compost? Un texte de Sarah Champagne, paru le 11 mai 2026 dans La Presse. Contrairement à d'autres villes comme Ottawa, Toronto ou Calgary, il n'existe pas de collectif municipal d'excréments d'animaux à Montréal pour les transformer en compost. Les matières fécales canines et les litières souillées sont vouées à l'enfouissement. L'entreprise de collecte des résidus alimentaires commerciaux Compost Montréal entend changer la donne en lançant une collecte clé en main. Qui n'a pas déjà failli mettre le pied sur un caca de chien laissé sur un trottoir ou dans un parc? Au-delà du fait d'être dégoûtante, les déjections d'animaux de compagnie sont une source de parasites, de bactéries et de virus. Elles peuvent être porteuses de la bactérie E. coli, du parasite Giardia lamblia, qui peut causer une infection intestinale, de la salmonelle ou du ver solitaire. Elles peuvent dégrader la flore et infecter la faune qui se nourrit de l'écosystème. C'est dans cet esprit que Stephen McLeod, dirigeant de Compost Montréal, a mis sur pied son service de collecte actuellement en rodage. Accompagné de son chien Ruby, il a expliqué les rudiments de son service déployé graduellement chez les résidents, les cliniques vétérinaires, éventuellement chez des restaurateurs exploitant des terrasses acceptant les chiens. Sur le trottoir, rue Bague, dans le plateau Mont-Royal, un bac vert de 45 litres est au banc d'essai. Sauf pour la couleur, il ressemble en tout point à celui destiné à la collecte municipale des résidus compostables. À l'intérieur, on installe un sac biodégradable, a expliqué l'entrepreneur à La Presse. Il peut accueillir les excréments et les litières, sauf celles en silice. Pour les chiens, les utilisateurs sont invités à ajouter une couche de paillis dans le bac. Quelques gouttes de vinaigre de pomme peuvent adoucir les odeurs, surtout en été. Le paillis agit comme une éponge, il absorbe l'humidité et aide à limiter les émanations. Dans le cas du bac à l'essai de la rue Bague, il sert à recueillir la litière souillée des deux gros chats de Daniel Svatek. J'utilise de la litière agglomérante comme celle que l'on retrouve dans les animaleries. J'ai l'habitude de ramasser séparément la crotte de mes chats. L'idée d'envoyer ça au compostage me semble essentielle pour réduire l'enfouissement, dit ce Montréalais. Pour le moment, le service est offert dans 14 arrondissements du centre de l'île de Montréal, allant de Montréal-Ouest jusqu'à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. L'abonnement est d'environ 10 $ par semaine, selon le forfait. Compost Montréal peut fournir le paillis, des sacs pour les promenades dans le parc, même un contenant de transport hermétique ressemblant à une gourde d'eau. Transformation. En raison des agents pathogènes que contiennent les excréments des animaux de compagnie, le procédé pour composter les excréments n'est pas le même qu'au centre de traitement de Montréal qui utilise une technologie accélérée en tunnel fermé. Pour les excréments, la transformation doit être effectuée sur plusieurs jours à de hautes températures, variant de 55 degrés Celsius à 70 degrés Celsius en mode aérobie, oxygène, et en andains, A-N-D-A-I-N-S. Ça ressemble à de longues buttes de terre. Le fondateur de Compost Montréal s'est tourné vers l'entreprise Biogénie Bury, située à une demi-heure de Sherbrooke, pour transformer les matières fécales citadines en compost de qualité agricole. Stephen McLeod estime que l'empreinte carbone demeure favorable, malgré la distance à parcourir. On a cherché loin pour trouver un site qui utilise cette technologie, assure-t-il. À Ottawa, la collecte des excréments existe depuis 2019. Les déjections vont dans le bac vert, au même titre que les restes de table. Les citoyens sont encouragés à se débarrasser des excréments de chiens dans des sacs étanches, en plastique ou en papier. Les litières des chats, des hamsters ou d'oiseaux sont aussi acceptées. Les plumes et poils d'animaux également. Dans leurs usines de traitement des déchets organiques, les sacs sont déchirés par de la machinerie et les déchets organiques sont séparés pour le compostage. La gestionnaire du programme et de la gestion des déchets solides d'Ottawa, Raquel Jones, a affirmé à la presse que plus d'un million de tonnes de matières organiques ont été collectées grâce au programme Bac Vert depuis son implantation en 2010. Selon une étude menée en 2022, la participation de nos citoyens à la collecte des bacs noirs, déchets ultimes, et verts, matières organiques, est rendue équivalente, a-t-elle ajouté. Au Québec, le service est offert au compte-gouttes. Le compostage des excréments des animaux est offert à Trois-Rivières et à Sherbrooke. C'était « Les excréments de Pitou bientôt en compost », un texte de Sarah Champagne, paru le 11 mai 2026 dans la presse.
La réadaptation par la vibration. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 13 mai 2026 dans la presse. Faire vibrer les muscles semble grandement aider à la réadaptation, notamment après un accident vasculaire cérébral, AVC. Mais cette technologie tarde à être adoptée. Un nouveau réseau veut combler les preuves cliniques de l'efficacité de la vibration musculo-tendineuse. Depuis 10 ans, il y a de plus en plus de preuves cliniques que la vibration musculo-tendineuse aide la réadaptation, notamment chez les gens qui répondent moins bien à la physiothérapie, explique Louis-David Beaulieu de l'Université du Québec à Chicoutimi. Le physiothérapeute organise le premier colloque franco-québécois sur le sujet au congrès de l'ACFAS à Trois-Rivières. Cette approche utilise des vibrations pour stimuler les connexions entre les récepteurs du corps qui dirigent les mouvements et le cerveau. Quand cette communication est altérée, par exemple après un AVC, le contrôle des mouvements est plus difficile, voire impossible. Plus de 80% des AVC mènent à des troubles moteurs, explique Thomas Lapolle, physiologiste à l'Université Jean Monnet en France et co-organisateur du colloque. Dans la moitié des cas, il y a une récupération spontanée ou dans le temps avec de la rééducation. mais au moins 30 % des patients ont des défaillances motrices à long terme. La vibration ne va pas remplacer la réadaptation, mais plutôt viser ceux qu'elle n'aide pas ou qui ont des atteintes motrices tellement graves que la physiothérapie n'est pas possible, selon M. Beaulieu. Pour le moment, aucun régime d'assurance maladie en Amérique du Nord ou en Europe ne rembourse la vibration musculo-tendineuse. Il n'y a pas assez de données sur la bonne approche à suivre en fonction du patient, dit M. Beaulieu. Il faut faire des études cliniques pour établir des protocoles. Les appareils coûtent au minimum 30 000 $ et peuvent friser les 200 000 $. Neurostimulation. L'un des avantages de la vibration est l'absence d'effets secondaires négatifs, selon M. Lapolle. La vibration est la petite sœur de la neurostimulation électrique qui fait se contracter les muscles pour la réadaptation, dit le spécialiste de physiologie neuromusculaire français. Certains patients sont trop sensibles pour qu'on puisse utiliser l'approche électrique. La vibration musculo-tendineuse a été inventée il y a un demi-siècle par des chercheurs qui voulaient comprendre comment le cerveau contrôlait les mouvements. Il y a des récepteurs un peu partout sur le corps qui disent au cerveau où on se trouve, quels muscles il faut contracter ou détendre pour se déplacer comme on le veut, dit M. Beaulieu. C'est comme ça qu'on peut se déplacer dans le noir, par exemple. Cette communication entre les récepteurs du mouvement et le cerveau est essentielle à la marche et à l'appréhension par les bras et les mains. La vibration, après des dommages cérébraux par un AVC, par exemple, permet au cerveau de se réorganiser pour retrouver la capacité de commander les muscles responsables des mouvements. Un processus appelé neuroplasticité, dit M. Beaulieu. On veut recréer la boucle récepteur-cerveau, faire dialoguer ces récepteurs qui sont dormants ou moins actifs, dit le chercheur de Chicoutimi. Et rappeler au cerveau que le membre est là, prêt à être utilisé. Douleur. Le colloque a aussi accueilli des présentations sur l'utilisation de la vibration musculo-tendineuse pour le traitement de la douleur chronique et de divers problèmes neuromoteurs ou découlant de traumatismes crâniens. On pourrait aussi l'utiliser après des opérations de reconstruction du genou ou des ligaments croisés, qui ont souvent une réadaptation lente et difficile, dit M. Lapolle. M. Beaulieu ajoute que la vibration pourrait aider les astronautes qui passent beaucoup de temps en apesanteur, par exemple durant une mission vers Mars ou sur une base lunaire. On a vu quand les astronautes sont revenus de la Lune en avril qu'ils ne marchaient pas normalement, dit M. Beaulieu. En savoir plus, source Santé Canada. 879 000, nombre de Canadiens qui ont déjà eu un diagnostic d'AVC. 25 % proportion des AVC diagnostiqués qui surviennent avant 65 ans. C'était « La réadaptation par la vibration », un texte de Mathieu Perrault paru le 13 mai 2026 dans la presse.
Le bonheur des Québécois. Un texte de Gérard Bouchard paru le 9 mai 2026 dans Le Devoir. Nos politiques sociales généreuses ajoutent un filet de sécurité et renforcent les liens collectifs. Le World Happiness Center, créé à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, ONU, effectue annuellement des sondages internationaux sur le bonheur des peuples. Ces sondages, qui placent régulièrement le Québec parmi les peuples les plus heureux du monde, me laissaient autrefois perplexe. Mais le sérieux de la méthode et les témoignages d'experts crédibles ont vaincu mon scepticisme. S'agissant du Québec, ces résultats se heurtent à des paradoxes, mais ils se dissolvent lorsqu'on met les choses en perspective. Les conditions du bonheur collectif. Selon des sondages complémentaires de la firme Léger et des travaux effectués par des chercheurs québécois de McGill, de l'UQAM, de l'Université Laval, on doit porter attention aux fondements socioculturels de notre société, à savoir l'identité. C'est un ensemble disparate constitué de valeurs, de références mémorielles, de traditions langagières, de perceptions de soi et de l'autre, de croyances, d'émotions, le tout s'exprimant dans une langue et un corpus de symboles les plus divers. Vu à distance, on comprend que les contenus de ces composantes ne sont pas toujours propres au Québec. Par exemple, le français, la démocratie ou le rapport au territoire. Ce qui leur donne un caractère distinctif, c'est l'intensité de l'adhésion dont ils sont l'objet et les modalités, les contextes de leur intériorisation. Un sentiment d'appartenance. Il est créé par l'identité et engendre un lien social, une solidarité. Un sentiment de sécurité. Cette composante découle des deux précédentes. Dans une société normale, le citoyen ne vit pas dans un vide. Il se sent intégré à un ensemble qui le situe psychologiquement, culturellement, socialement, qui lui fournit des repères à partir desquels il construit sa personnalité. La cohésion sociale. Elle naît d'un ensemble de normes, de coutumes, de conventions et d'attentes que les membres d'une société partagent. L'intégration collective. Elle est favorisée par la facilité de s'insérer dans la vie sociale, d'établir des liens et de participer à la vie courante, rites, travail, loisirs, allégeance communautaire. Sur tout cela repose le bonheur d'un peuple. Or, le Québec obtient une note élevée pour chacun des indices qui viennent d'être évoqués. Les travaux signalés plus haut montrent, par exemple, que les francophones de naissance se classent mieux que les membres des minorités, y compris les anglophones. Ils se signalent aussi par le sens particulièrement fort d'une identité, d'une appartenance et d'une solidarité. Les politiques sociales généreuses ajoutent un filet de sécurité et renforcent les liens collectifs. Les protections juridiques du français accentuent ces deux traits. Les coûts relativement bas de la scolarité entretiennent des perspectives de promotion sociale, etc. Sera-t-on surpris par le fait que les États-Unis, la nation la plus riche au monde, ne se classent qu'au 19e rang dans cette échelle du bonheur? Les données montrent aussi qu'une région éloignée comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean enregistre un score très élevé, ce qui concorde avec ce que l'on sait de cette population. Identité très marquée, solidarité, confiance en soi, audace, vive conscience territoriale, forte culture familiale, tempérament festif. Paradoxe. Les résultats québécois sont le lieu de deux paradoxes. Selon le premier, les sondages du World Center nous disent que notre société est très heureuse alors que des diagnostics fiables établissent qu'elle ne va pas bien. La sociologie peut ici nous venir en aide. L'état désordonné dans lequel la coalition Avenir Québec, CAQ, laisse le Québec est contingent. Nous y verrons plus clair après les prochaines élections, mais il est assuré qu'une nouvelle gouvernance plus avisée, vigilante et disciplinée pourrait réparer les maux dont nous souffrons maintenant, des maux qui n'ont rien de structurel. Pensons au problème du logement, à la gestion erratique des finances de l'État, à la précarité des institutions culturelles et des services publics, au fouillis du système d'éducation, au délabrement des infrastructures. Tous ces maux résultent d'une gestion défaillante et peuvent être corrigés. Or, les conditions à l'origine du bonheur collectif relèvent toutes des structures profondes de la société, celles qui ont mis beaucoup de temps à prendre forme et qui sont capables de survivre à des conjonctures défavorables. C'est le cas, notamment, de la dimension identitaire, de la solidarité et de la cohésion sociale. On pourrait en dire autant des fondements culturels de notre société. C'est seulement si les mauvaises conjonctures se multipliaient ou s'étiraient sur une très longue période que les facteurs structurels seraient affectés, entraînant un déclin de l'indice. Le second paradoxe semble renforcer le premier. Selon une perception générale, encore une fois parfaitement fondée, le Québec est une petite nation fragile, inquiète de sa survie. Des prévisions apocalyptiques se font même entendre périodiquement. Comment peut-on se sentir heureux dans ces circonstances? Je crois que c'est justement cette inquiétude qui nourrit ou accentue les traits collectifs mentionnés plus haut. Elle commande en quelque sorte l'érection d'un mur de protection contre un avenir menacé. Toute la société se mobilise à cette fin. Du même coup, elle dope les indices du bonheur en insufflant un besoin de rapprochement, de cohésion, de sociabilité et de solidarité. Les Québécois, dit-on, n'aiment pas la chicane. Ils craignent les divisions profondes, durables et tout ce qui ressemble à de la fragmentation collective, tout ce qui menace la cohésion sociale. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils se méfient du multiculturalisme canadien et du néolibéralisme, deux systèmes qui favorisent l'individualisme. De même, ils craignent les effets du radicalisme. En matière de gouvernance, ils favorisent la concertation, le compromis, les consultations, la coopération, les alliances. Ce qu'on doit retenir de ces mesures du bonheur collectif, c'est que, sous un jour qu'on pourrait tenir pour superficiel, elles témoignent à leur façon de la facture profonde d'une société. On aura aussi compris que les valeurs prises par l'indice d'une société à l'autre sont le produit d'arrangements, de montages structurels propres à chacune. Les nations scandinaves, unies par une histoire et un habitat commun, font peut-être exception. Je remercie Pierre Fortin et Mario Pollez qui m'ont aimablement signalé les résultats des recherches qui ont servi de base à ce commentaire. C'était « Le bonheur des Québécois », un texte de Gérard Bouchard, paru le 9 mai 2026 dans Le Devoir.